Donc la discussion est ouverte. Oui, vas-y.
Les cadres de la P26 et P27 sont connus et qu'est-il advenu de... Est-ce que ça a été officiellement dissous? Qu'est-ce qu'on en dit?
Alors, je commence et puis je donne la parole à Tobias. Il se passe une chose, printemps 1989. Il y avait eu en Suisse une histoire d'une filière de blanchiment de l'argent de l'héroïne connue sous le titre de la Pizza Connection. C'est-à-dire que des pizzerias étaient utilisées pour recycler l'argent sale. Et la DEA aux États-Unis avait mis le paquet sur cette affaire-là. Ils avaient fait sauter un certain nombre de titres. Et ils ont continué à suivre la chose. Et à un moment donné, il s'est trouvé qu'il y avait un groupe, une filière turque, pourvoyeur d'héroïne, mais pas le dealer de rue, hein, filière turque pourvoyeur d'héroïne, qui avait pignon sur rue en Suisse. Et il se trouve qu'il y a une enquête qui est ouverte sur ce truc-là, et la ministre de la Justice, Madame Elisabeth Kopp, est informée du fait que des associés très très proches de son mari, avocat d'affaires, font partie de ce groupe de Turcs qui trustent l'héroïne en Suisse et qui sont dans le viseur de la DEA américaine. Donc, il se passe une chose très simple. Madame Kopp prend le téléphone à son mari en disant, écoute, démissionne parce que dans quelques jours, ils vont arriver à toi. Il démissionne. Sauf que là-dessus, les Américains, dans leur manière de foutre leur nez partout, même là où ils ne doivent pas, ils ont enregistré le téléphone de Madame Kopp et ils transmettent à Jean-Pascal Delamura, qui est président de la Confédération en ce moment, ils transmettent à Delamura l'information. Kopp, elle fait du favoritisme pour son mari. Son mari est jusqu'au cou dans l'histoire de l'héroïne et de cette filière internationale. Et là-dessus, on crée, pour la première fois dans l'histoire de la Suisse, on crée un outil qui a été voté pour la première fois lors de l'affaire des Mirages, mais on ne l'a pas créé. C'est la création d'une commission d'enquête parlementaire. Commission d'enquête parlementaire dans laquelle joueront un rôle très important un certain Moritz Leuenberger, qui va devenir conseiller fédéral, et Werner Carobbio. Et la commission d'enquête parlementaire, elle commence à mener son enquête, on tire les fils, et d'un coup apparaît l'histoire de la P26 et de la P27. Et là, je laisse Tobias continuer parce qu'il a des démêlés avec la télé là-dessus. Donc.
C'est la première commission d'enquête fédérale. Ce qu'elle découvre, c'est, parce qu'on a des fiches, elle découvre 900 000 fiches. Le 1 Suisse,
15%
de la population qui est fichée. Et on y passe tous. On a eu la chance, moi et Astrid, d'être parmi les derniers, mais on a aussi reçu d'autres fiches. Quoi.
Là, il y avait celle de Max Frisch.
Je ne sais pas combien. Tous ici, on a été, je pense, largement fichés. Quoi. Et c'était les ennemis de l'intérieur qui étaient la cible du livret
du livret
civil.
Ouais, ouais.
C'est très bien expliqué. Il y a des pages dans ce livret où c'est les pacifistes, les antimilitaristes, les objecteurs de conscience, les chrétiens contre la bombe atomique. Tous ces gens-là, c'était la cinquième colonne. Et c'est en allant le premier. Je crois que c'était Rudolf Schramm, un conseiller national socialiste pour moi, qui est un des premiers qui a eu accès à ces fiches avant que les fiches soient transmises, caviardées
dans
les sources à ceux qui les demandaient. Lui, en tant que député, il avait pu aller voir la sienne et il trouve une entrée sur sa fiche. Que c'est un groupe de l'armée, une institution militaire qui avait donné l'information à la police. Et c'est en continuant à tirer là, et ça c'était le Schramm s'affiche, c'est en 89 qu'il trouve ça. Et en tirant ça, un mois plus tard, enfin début 90, il trouve qu'effectivement aussi l'armée avait gardé, avait fiché elle-même toute une série de citoyens. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des gens que, à l'armée qui s'occupaient du fichage qui commencent à parler. Ils disent, oui, mais regardez, ils parlent avec des gens de la presse. Enfin, ça sort que même l'armée a son armée secrète. Et, qui a, et là, c'est une deuxième commission parlementaire. C'est quelques semaines après ce vote qui a eu lieu le 26 novembre, et c'est deux semaines après la chute du mur de Berlin, c'est une fois que tout ça est tombé qui permet de révéler que la Suisse avait un État dans l'État avec sa propre armée dans l'armée. Et tout ça pour prévenir la bolchevisation du Monde Rouge, cette cinquième colonne qui aurait sapé cette unité nationale, cette unité sacrée de la Suisse et de son armée. Je vais en parler parce que c'est un des. Je crois que l'initiative du G, c'est ça qui a libéré tout ça, c'est sûr. Oui, mais c'était un bouleversement. Là aussi, la découverte de ça, la découverte de cet État dans l'État, totalement en dehors du contrôle institutionnel démocratique, c'était un des acquis, disons, qu'on peut dire suite à la
ça sera la prochaine fois.
Et qui est aujourd'hui, là aussi, comme les autres, l'acquis remis en question. Et donc, ça a été découvert, ça a été sanctionné. Le Conseil général a dissous. La P26.
Ils ont récupéré les armes. Ils ont récupéré les armes.
Mais ils n'ont jamais été sanctionnés. Et c'est l'histoire dont je me suis un peu occupé dernièrement aussi. Il y a eu des hauts cadres de l'armée, des chefs de commandement, des commandants en chef de l'armée qui n'ont jamais admis d'avoir été désavoués par Castel Willinger et d'avoir été quelque part condamnés moralement, mais sans être condamnés pénalement, mais ils n'ont jamais supporté l'opprobre de devoir se dissoudre. Ça, c'est toute un cycle de réhabilitation qui a abouti pas plus tard qu'en 2015 à Genève, avec une cérémonie, et dans d'autres cantons aussi, avec une cérémonie où Pierre Modet a été remercié, les anciens membres de cette armée secrète. 2015, et personne, ça s'est fait en catimini, mais c'est encore une histoire qui va être développée dans la prochaine. Bref, c'est effectivement c'est un symptôme, c'était un aspect de la Suisse qu'a décrit Paolo, que cette initiative et cette campagne de nous tous a contribué à faire voler notre éclat.
Vous êtes sûr qu'il
n'y
a pas de caméra, là ?
Sûrement. Non, sur ce truc, moi, j'étais en train de préparer cette présentation de ce soir, et j'étais sur cette phrase que j'ai donnée au début sur « Chaque citoyen doit garder les yeux ouverts, les oreilles alertes, etc. » Et au même moment, c'était mercredi passé, il y avait le discours de Castaner, le ministre de l'Intérieur français, et du Premier ministre Philippe, sur l'importance de développer en France la... je ne sais plus exactement comment il l'appelle, mais la vigilance citoyenne. Et on en est exactement à ça. Et il y a ce retour aujourd'hui. À l'époque, c'était l'ennemi soviétique, l'ennemi rouge, mais aujourd'hui, on prend... Parce que Castaner, après, il a donné les signes de radicalisation. Hein. Voilà ce qu'il faut dénoncer. Donc il faut dénoncer tous ceux qui se font pousser la barbe sans moustache. Il faut dénoncer tous ceux qui d'un coup arrêtent de boire de l'alcool. Il faut dénoncer tous ceux qui le vendredi sont souvent absents. Mais il faut aussi dénoncer tous ceux qui justement seraient en train de préparer un attentat et que pour cela boivent de l'alcool, se font pas pousser la barbe et sont pas absents le vendredi. Mais on est exactement dans cette logique-là qui remplace les droits, parce que les constitutions parlent des droits démocratiques et des limitations aux droits démocratiques qui sont des exceptions. Là, on est en train de renverser la logique. Et en Suisse, qu'on puisse expulser de l'enseignement un type parce qu'il a distribué des tracts en défense des objecteurs de conscience, mais c'était... On était exactement dans cette logique. Que Régis de Battista, passionné d'aviation, ait été exclu de Swissair parce qu'il était objecteur de conscience, ça montrait que tout ce discours sur la démocratie suisse, c'est que du baratin. Et là, moi j'avais des copains fribourgeois qui me disait, mais comment tu fais, toi, pour faire tout ce que tu fais sur l'armée et continuer à enseigner? Moi, j'avais une réponse toute faite. C'est qu'en 82 ou 83, quand il y avait eu le défilé militaire et nous, on distribuait des petits ballons antimilitaristes, sous le perron du Grand Théâtre, il y avait tout le Conseil d'État qui assistait au défilé de l'armée et il y avait un conseiller d'État, mon chef de département, M. André Chavannes, avec les mains dans les poches et accroché au poignet un des ballons abolissant l'armée. Là, on pouvait le faire, mais c'était à Genève. C'était à Genève. Luc ?
Non, mais là-dessus, je veux juste dire, moi, j'ai été interdit comme c'était à une année d'études, interdit au bon secours. C'était en 71-72, je n'ai pas pu faire des études dans des écoles genevoises. Voilà. Mais ce que je veux dire de plus important, c'est qu'aujourd'hui, on parle des avions qui vont revenir, le sismique, la question, etc. Tu as parlé des répressions et autres, la surveillance des gens, etc. Il y a un exercice qui est en train de se faire en Suisse, à grande échelle, entre l'armée et les polices. Un des objectifs, c'est de casser les gens d'extrême gauche, c'est-à-dire les anticapitalistes qui ont dit que seraient les anticapitalistes plus pourraient, etc.
Ah, j'ai pas vu ça.
Alors, demain, vous pourrez lire la presse parce que ça montre l'exercice qui a duré quelques semaines.
D'accord.
Il ne sera pas public, il n'y aura pas des flics et l'armée dans la rue. Ils sont en train de tester des tas de choses en plus grand secret, en guillemets. Mais ils informent du coup de la population qu'elle sache que veillent leur bien.
Oui.
Il pourrait y avoir des attentats, des trucs terroristes qui pourraient durer 2-3 ans. Il faut qu'on puisse tenir sur la durée de 2-3 ans. Donc il y a un scénario, je n'ai pas trop entendu, je vais en faire pour l'émission.
Mais il y a des gens pour le climat aussi dans cette affaire.
Voilà,
ah oui.
Évidemment, les gens pour le climat.
Donc les parallèles sont très intéressants.
Ah, évidemment.
D'accord.
On va retrouver tous les termes qui ont. Qui ont été débattus ce soir par Paolo, expliqués en tout cas de façon très claire, je te remercie. C'est inquiétant, il y a un retour de bâton, absolument jamais en Suisse, par rapport à l'autorité et par rapport à ces dissidents.
Les oui.
Gens qui voudraient peut-être qu'on peut parler autrement que la loi officielle. Et ça, je pense que le 26 novembre sera intéressant le débat qu'on aura, le troisième débat. Pour voir, c'est dans notre perspective. Et puis l'autre chose, on a parlé des menaces et tout, il y a eu comme des menaces de mort, je sais ça. Ramseyer ou d'autres gens qui ont dit oui, c'est des gens. J'ai été menacé, et j'ai fait les courriers d'ailleurs, je les ai ici. Donc, c'est des trucs comme. Si c'est pas chlorique comme ça, en même temps, ils l'ont fait. Ils ont chopé un type, un officier qui a un peu trop qui a déconné. Sur Paolo, voilà. Mais on a reçu des lettres quand même. Je ne
vais pas. Moi, j'ai un classeur fédéral plein de lettres anonymes, mais bon. Mais c'est vrai que, bon, voilà, c'est aussi ce genre de choses. Quand Jacques-Simon Aigli déclare dans un meeting, dans un débat public. Il dit « La Suisse a deux ennemis, Christophe Blocher et Paolo Gilardi. » Ouais. Mais ça veut dire quoi? C'est l'ennemi. L'ennemi, tu fais quoi avec l'ennemi? Ben, une personne qui fait fonctionner sa cervelle se dit l'ennemi, bon, je le combats. Hein? Personne qui fait peu fonctionner sa cervelle, l'ennemi, je lui tire une balle entre les deux yeux. Terminé. Et ça, ce type de discours, c'est pas un discours neutre. C'est un discours qui ouvre des possibles, qui fait tomber des interdits, et c'est gravissime. Mais c'est tel... Si on pense que... Pardon ? Il a dit ça lors d'un débat contradictoire...
Il est toujours vivant ?
Oui.
Il a 10 jours.
C'était un débat contradictoire sur les FA 18, en 93, à... C'était Mark Schindler, qui était un journaliste de la télé, qui il était choqué lui-même. Hein. Je crois au Nez, salle communale d'Onet, un truc comme ça.
Tu n'as pas déposé plainte?
Non, moi, je n'ai pas déposé plainte, sauf que le mois suivant, j'ai reçu cette lettre de ce capitaine qui me proposait si gentiment de me loger une balle entre les deux yeux si l'initiative contre les FA 18 était acceptée. Et là, j'ai dit en conférence de presse qu'évidemment, dénoncer le GSSA comme un ennemi de la Suisse revient à susciter ce genre de choses. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout... j'ai amené, lors d'une des premières réunions, un entrefilet paru dans la tribune de Genève du Major Troyon. Major Troyon, c'était le chef de la sécurité de l'aéroport. Le Major Troyon... Quand je l'ai montré à Aline, elle dit mais c'est d'une violence inouïe ce truc-là. Aujourd'hui, le major Troyon écrivait dans la tribune de Genève qu'il faudrait se débarrasser de tous ces antimilitaristes, et il écrivait noir sur blanc, et de tous les connards qui votent pour eux. Non. Tous les connards qui votent pour eux. Il y avait un truc, mais c'est... Oui. Sans gêne. On est là... pour défendre le pays depuis 1291, tous ensemble, les autres, c'est des traîtres, et donc les traîtres, en temps de guerre, on les pend, on les fusille. Et c'était la réponse de Ranzeyer. Les objecteurs, c'est des traîtres, et on fait quoi des traîtres? En temps de guerre, on les fusille. Hein? Et le reste, en temps de paix? Mais il y avait ça. Et quand on nous disait, ah, t'es pas content? Va à Moscou, je te paye un billet, elle est simple. T'as pas le droit, t'avais pas le droit d'être citoyen de ce pays si tu n'adhérais pas à l'idée que pour être citoyen, tu devais être soldat et défendre ce pays. C'est en ça que 89, bon, on y viendra la prochaine fois avec Tobias, c'est un moment majeur. Hein. C'est un moment majeur. On a été vraiment... Je revendique, ça m'est venu en discutant l'autre jour à Radio Fréquence Banane, cette idée, la coucheuse, c'est vrai, on a été la coucheuse. Mais la coucheuse, il y avait une volonté de l'être, et d'être là. Et ça, face, Aline le disait tout à l'heure, face aux défis qui sont là maintenant, parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte... Mais il y a un arsenal nucléaire aujourd'hui aux mains de types comme Poutine, totalement incontrôlable, comme Trump. Même ses conseillers les plus proches ne savent pas ce qu'il va faire dans deux minutes. D'un type comme Macron et d'autres dont on ne parle pas, qui peuvent appuyer sur le bouton d'un moment à l'autre, qui peuvent provoquer des catastrophes. Et je crois que de ce point de vue-là, hein, la relance à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle internationale, d'un mouvement pour le désarmement et pour le désarmement nucléaire, elle est vitale. Je crois que c'est ce que nous devons aux générations à venir. On ne peut pas laisser les générations à venir exposées au risque qu'un autre Donald Trump, qu'un autre abruti, appuie sur le bouton. Parce qu'aujourd'hui, se permettre de se retirer et de lâcher les Kurdes dans les mains des Turcs, hein, mais la même chose quand un Macron décide d'emboucher les trompettes de la xénophobie et du racisme et de prendre le discours de Marine Le Pen, bah demain, il peut être capable aussi de faire d'autres choses. Hein. Donc, quand Salvini arrive au gouvernement, au pouvoir en Italie, l'Italie fait partie du commandement intégré de l'OTAN. Hein. Et on peut appuyer sur le bouton, là aussi. Donc, pour moi, c'est pas une lubie de Babacool 68 heures et tardé. C'est vraiment une nécessité absolue, ce truc. Oui, oui, mais ça va de pair avec la destruction de la planète par d'autres moyens. C'est
la plus vite.
Hein ?
C'est
la plus vite. C'est la plus vite, oui. Voilà. Oui, vas-y.
Y a-t-il eu des velléités de réhabilitation des personnes comme Bacroix, Luc ? Est-ce qu'à un moment donné, officiellement, vous avez reçu quelque chose qui est un peu... Parce que je pense à ça, parce que je pense aux résistants de la guerre d'Espagne qui sont partis, qu'on a considérés également comme des déserteurs. Ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être un levier sur lequel vous aurez envie d'aller à un moment donné ? Disons, on exige quand même à un moment donné...
Moi, je n'ai pas besoin de réhabilitation parce que je n'ai pas été condamné à quoi que ce soit. On m'a chassé de l'armée. C'est la preuve de la force de cette institution. Moi, petit individu, on m'a chassé. Mais ceux qui ont été condamnés, je sais qu'il y a eu une intervention de Lisa Mazzone au Parlement fédéral pour une réhabilitation des objecteurs de conscience qui ont été condamnés. Mais... Bon, elle a fait l'interpellation, puis pour le moment, ça reste... Hein ?
Ils sont pas entrés en matière.
Ils sont pas entrés en matière.
Même pas en matière.
Voilà,
c'est... La monde à ma soeur,
monsieur. On arrête là ? Prochaine fois, donc, c'est Tobia, le 13... mercredi 13 novembre, ici même... qui va présenter à la suite les effets.
Et là, peut-être qu'il y aura déjà une bonne partie de l'exposition par Sylvie.
Oui.
Les affiches, les objets de la campagne de 89 UGC, c'est ça. Et pour le 26, je pense, peut-être déjà le 13, il y aura aussi quelques installations de reconversion d'objets l'armée.
Voilà.
C'est une version civile et écologique de matériel militaire.
Voilà. Merci d'être venu.